9h sur France Culture. Restez à l'écoute, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On la disait sur la sellette, cette fois Theresa May aurait prévu d'annoncer sa démission demain selon le journal The Times, alors même que les bureaux de vote viennent d'ouvrir pour les élections européennes au Royaume-Uni. Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
La première ministre britannique, empêtrée dans la crise du Brexit, ne pouvait plus sauver sa peau selon le quotidien.
Et c'est vrai que c'est pas la première fois que la presse britannique, adepte de grands titres définitifs, annonce la fin de Theresa May au 10 Downing Street. Mais cette fois, comme nous le dit The Times, elle arrive au bout du bout. La direction du Parti conservateur lui a signifié qu'elle devait démissionner hier soir. Le dernier signal fort, ça a été la démission d'une de ses plus fidèles alliées, la ministre en charge des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom. Et ça montre bien que le camp conservateur a définitivement lâché Theresa May. Et ce, après qu'elle a proposé une quatrième mouture de son accord de Brexit. Elle devait être soumise au vote du Parlement britannique, cette mouture-là, début juin. Mais elle a déjà fédéré toutes les voix contre elle, parce qu'elle essayait de rallier les votes travaillistes en ouvrant la voie à l'organisation d'un second référendum sur le Brexit. En faisant cela, en faisant ces concessions, eh bien Theresa May s'est privée de ses derniers soutiens dans son propre camp, et ils n'étaient déjà plus nombreux. On lui a donc intimé l'ordre d'annoncer son départ hier soir. Elle est ressortie de cette réunion au siège de son parti, les yeux rougis par les larmes, et c'est cette image qui fait la une du Times et de toute la presse londonienne ce matin. Mais la première ministre s'est depuis barricadée au 10 Downing Street. Elle en a fait son dernier boom cœur, disent les journaux, pour s'accrocher jusqu'au bout au pouvoir. Officiellement aujourd'hui, elle doit continuer à faire son travail comme si de rien n'était, aller faire campagne pour le vote aux élections européennes, qui, on le rappelle, se déroulent aujourd'hui au Royaume-Uni. Mais les cadres du Parti conservateur ont été clairs. Selon The Times, May devra faire ses valises dès demain.
Merci Camille Magnard, et votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr. Les Pays-Bas votent aussi aujourd'hui, avant les Irlandais et la République tchèque demain. La France, ce sera dimanche. Une élection qui devrait être marquée par une poussée des partis eurosceptiques et qui aurait pour conséquence la fin du duo politique habituel entre le PPE à droite et la gauche des sociaux et démocrates à gauche, selon une projection réalisée par la Fondation pour l'innovation politique. Pour la première fois, leur score passerait sous la barre des 50% ensemble, selon Dominique Régnier, qui dirige cette fondation.
On arrive à 45% pour ces deux groupes. Donc on passe d'un duopole très dominateur à deux partis minoritaires ensemble qui vont devoir composer. C'est possiblement une très bonne nouvelle, même si ça contraint les groupes dans leur ensemble et les groupes au Parlement européen à davantage discuter, fabriquer des compromis plus compliqués à obtenir, des discussions plus approfondies, des équilibres plus subtils et changeants d'ailleurs aussi, ce qui pourrait irriguer, je dirais, au fond, ce Parlement européen d'une vie démocratique qu'il a toujours eu plus que les autres instances européennes, mais qu'il aurait davantage encore là. Et ça correspond à ce qui est nécessaire aujourd'hui en Europe, dans ce que demandent les citoyens. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle.
Des propos accueillis par Anne Fauquemberg. Aux États-Unis, une dizaine de villes à travers le pays connaissent des grèves aujourd'hui pour défendre l'idée d'un salaire minimum universel à $15 de l'heure. Un mouvement lancé par les employés de la restauration rapide chez McDonald's, en première ligne dans ce mouvement depuis des années. À New York, Loïc Loury.
Fin 2012, il n'était que quelques centaines à s'être mobilisés à New York. Une grève presque inédite pour le secteur, avec une revendication de taille, un salaire minimum quasiment doublé à $15 de l'heure. Depuis, ces travailleurs new-yorkais ont obtenu gain de cause et le mouvement Fight for 15 a largement débordé la ville. Ses partisans, comme D'Angelo, employé chez McDonald's dans l'Illinois, n'hésitent plus à afficher leurs revendications sur les réseaux sociaux.
C'est important pour moi parce qu'avec une telle loi, je pourrais aider ma famille, retourner à l'université et faire toutes les choses que j'aimerais faire. Alors oui, j'aimerais vraiment que ça passe.
Et si le mouvement commence à payer dans une trentaine d'États, le SMIC reste bloqué à $7,25 au niveau fédéral. Nicolas Allen travaille pour un syndicat qui regroupe 2 millions d'employés des services. On est, dit-il, loin du compte.
$15, c'est le minimum qu'il faut pour vivre dignement dans la majorité des régions américaines. Mais ça va au-delà juste de la lutte des fast-food. Tous les travailleurs mal payés sont en train de se lever pour un salaire digne Mais clairement, le vent tourne de notre côté et les entreprises comme McDonald's vont devoir répondre à cette demande.
Les démocrates, eux, se jettent dans la bataille. Quatre des prétendants à la primaire en vue de la présidentielle seront aujourd'hui sur le terrain avec les grévistes.
Des grèves pour dénoncer aussi les nombreux cas de harcèlement sexuel chez McDonald's. On apprenait mardi qu'une vingtaine de nouvelles plaintes avaient été déposées contre le géant de la restauration rapide. La météo du soleil sur l'ensemble de la France métropolitaine aujourd'hui et des températures moyennes comprises entre 16 et 23 degrés ce matin. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous d'actualité sur France Culture, ce sera le journal de la rédaction présenté à midi et demi par Thomas Cluzel.